Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Mais surtout avec notre invitée ce soir, la vice-présidente du Parlement européen, Sylvie Guillaume, qui est de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. Bonsoir.
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 Merci d'être notre invitée ce soir à la suite d'un passage dans les Hautes-Alpes pour expliquer et ramener l'Europe au plus proche des citoyens. Parce que, très clairement, c'est aujourd'hui ça le problème, Sylvie Guillaume. Quand on parle de l'Europe, on a beaucoup de mal à intéresser les auditeurs qui se sont bien éloignés du Parlement européen. Comment vous arrivez au quotidien, vous qui êtes la représentante de la région PACA à l'Europe, à les intéresser, leur dire que oui, l'Europe agit, notamment pour la France?
Alors, le diagnostic que vous faites, il est juste. C'est que l'Union européenne dans son ensemble, hein, pas seulement le Parlement européen, mais disons les institutions européennes, les politiques européennes, sont assez éloignées, semblent assez éloignées des citoyens français, mais pas seulement les Français. Donc il y a manifestement un écart qui, ces dernières années, s'est accru dans à la fois dans la compréhension et puis aussi dans les preuves, dans les traces que l'Union européenne continue d'apporter dans la vie de nos concitoyens. Donc votre diagnostic, il est juste. Mon travail à moi, comme membre du Parlement européen, donc une des trois institutions, hein, je ne prétends pas représenter les trois, mais la seule des institutions élues par les citoyens, mon travail à moi, comme représentante à la fois de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Corse et de la grande région Rhône-Alpes, qui est mitoyenne, c'est de, justement d'essayer d'apporter des éléments de preuve sur pas une Europe béate, pas une Europe non plus vilipendée, et une Europe qui est plus proche des citoyens, qui continue d'avoir des trains qui arrivent à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a une critique qui est faite, elle est quelquefois justifiée, mais on ne parle jamais des choses qui vont bien. Or, l'Europe, l'Union européenne, les institutions continuent d'apporter des choses qui vont dans le bon sens et dans l'amélioration de la vie de nos concitoyens.
Dans les trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme vous le disiez, dans les choses qui ne vont pas, est-ce que vous en voulez aussi aux élus de France qui, très régulièrement, pour se défausser, mettent ça sur la faute, effectivement, de l'Europe et donc aussi un petit peu à vous, indirectement?
Et là aussi, votre diagnostic est juste. Il y a les élus qui, quelquefois, ont ce rapport-là. Et puis, globalement, c'est un sport national, hein, qui est assez bien partagé aussi avec quelques membres du gouvernement ces dernières années, ou quelle que soit d'ailleurs la composition du gouvernement. Et c'est également un sport assez partagé avec d'autres types de gouvernements. Donc, globalement, s'il faut formuler une vraie critique à cet égard, il faut l'élargir et dire que le Conseil, c'est-à-dire les États membres, ont vraiment, c'est vrai, cette façon de se défausser assez régulièrement et, contre vis-à-vis de l'Union européenne. D'une certaine manière, ils se déplacent depuis leur capitale avec une idée. Ils se réunissent dans la formation Conseil. Adoptent une position et puis quand ils rentrent dans leur capitale, ils disent « on m'a forcé à faire ça, c'est pas ça que je voulais faire, ça va pas dans le bon sens, voyez comme l'Europe est ceci et cela ». Et donc c'est vrai que c'est un sport qui ne facilite pas à la fois cette compréhension et puis ce côté là aussi par image du verre à moitié plein qui est celui aussi de l'Union européenne.
Alors, voyons voir si un sujet, c'est plutôt verre à moitié plein ou verre à moitié vide pour vous. On parle beaucoup en ce moment du CETA, du traité d'accords commerciaux avec le Canada et l'Union européenne. Par rapport à ce sujet, un sujet qui a été adopté au Parlement européen, des députés, 106 députés, ont co-signé un référé, un recours devant le Conseil constitutionnel en France, notamment Joël Giraud, député PRG des Hautes-Alpes, et Karine Berger, également députée socialiste des Hautes-Alpes, en disant: aujourd'hui, il y a des zones d'ombre autour de ce traité d'accord. Il y a des zones d'ombre, notamment en matière écologique, en matière également de justice.
Et avant de savoir comment vous défendez ce sujet, quel a été votre vote pour le CETA, justement?
Alors, il est connu, hein, de longue date. Moi, je me suis prononcé contre le CETA. J'ai voté contre le texte qui nous a été présenté lors de la dernière session. C'est très récent, hein, c'était la semaine dernière. Donc vraiment, nous sommes arrivés en formation très groupée parmi les socialistes et démocrates français, ce qui n'était effectivement pas forcément le cas dans tout notre groupe. Les groupes étaient d'ailleurs assez divisés, pour dire les choses clairement, sauf certains d'entre eux. petit petit sur cette question. Donc mon vote a été négatif vis-à-vis du CETA, à peu près pour les mêmes motifs que Joël Giraud et Karine Berger évoquent, c'est-à-dire les questions d'environnement, les questions de respect du principe de précaution où on n'y est pas, les questions de santé aussi, les questions d'OGM, les questions aussi d'arriver sur le marché français et européen d'une quantité de viande bovine notamment qui va complètement déstabiliser les filières françaises, mais aussi pour des questions de justice. On a notamment au cœur de ce CETA, qui est un accord commercial, une cour d'arbitrage qui certes a beaucoup évolué avec les discussions en cours, mais qui n'est toujours pas tout à fait conforme à ce que nous voudrions.
Et qui tranche, c'est-à-dire que ce que reproche, pour expliquer un peu aux auditeurs, qui va trancher à la place des États.
Alors, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on ne fait pas confiance à la justice des États. Et on demande à une autre cour, constituée d'ailleurs, on ne sait pas exactement bien comment, de juger les litiges entre les sociétés et les États. Entendons-nous bien, si on reprenait les choses tout à fait au début, cette question d'arbitrage par une cour privée n'est pas forcément négative. Mais quand est-ce que ça s'adresse à des États tiers qui n'ont pas un système judiciaire qui est suffisamment élaboré ou développé que ça ne l'est au sein de l'Union européenne. Donc évidemment, là, on a peut-être besoin d'une cour privée si le système judiciaire n'est pas adéquat. Mais ce n'est pas notre cas dans l'Union européenne. Et donc, cette cour d'arbitrage n'est pas conforme à ce que nous voudrions. Donc, il y a tout, comme cela beaucoup de sujets qui sont tout à fait négatifs et qui ne nous semble pas abouti vis-à-vis de ce CETA.
Et là,
la logique maintenant, pardonnez-moi,
oui, donc,
la logique effectivement, c'est de considérer que la première des institutions à se prononcer a été le Parlement européen. Ce vote, malgré l'opposition assez importante qui a eu lieu, ce vote a été acquis. Donc maintenant, l'un des sujets où nous avons réussi ces derniers mois, ces dernières années, c'est de faire de ce vote, de cet accord, un accord mixte. Donc il doit passer maintenant devant les parlements nationaux.
Oui, c'est la question. La question que j'allais vous poser. C'est ceux qui demandent à ce que les États soient entendus indépendamment des choix de l'Europe. Est-ce que là, les parlementaires français auront un poids dans l'avenir?
Bien entendu. Cet accord va passer maintenant dans tous les parlements nationaux et les parlements régionaux de l'Union européenne, donc de mémoire 38. Donc évidemment, le Parlement français sera interrogé sur ce sujet et aura tout loisir de s'exprimer sur le CETA. On espère effectivement qu'il fera évoluer le texte. Malheureusement, là, c'est le bout d'une négociation. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la négociation par la Commission, qui a reçu évidemment un mandat, mais parce que nous avons voulu que ce mandat soit connu, il a fallu là aussi qu'on bataille. Mais c'est une négociation qui dure depuis 9 ans. Hein, oui. Donc ça ne va pas être repris maintenant. Le texte qui nous est proposé maintenant, qui sera proposé au Parlement français, notamment, est un texte qui est finalisé.
Oui, et ce sera pour la prochaine mandature, évidemment. Et là, les députés ne pourront pas se défausser sur l'Europe, puisqu'ils auront pris leur choix, fait leur choix et amené leur vote. Un autre sujet sur l'Europe, Cyrielle.
Qui concerne énormément les Alpes du Sud, c'est la PAC, la politique agricole commune. Aujourd'hui, certains parlent d'une certaine injustice en France. La France verse de l'argent à l'Europe et finalement ce qui lui revient à la PAC n'est pas équitable. Certains candidats à la présidentielle notamment veulent remettre à plat cette PAC. J'évoque notamment Emmanuel Macron. Alors la PAC, un système d'injustice ?
Alors je partage avec vous la deuxième partie de votre propos, mais pas tout à fait la première. C'est-à-dire que certes la France est une contributrice importante du budget européen, budget entre nous qui est trop faible, c'est un autre sujet et un sujet en soi. Mais qu'elle ne soit pas bénéficiaire de la PAC, par contre, là, je ne trouve pas cela très très juste. Ce qui me semblerait plus adapté, en fait, c'est de considérer que les crédits de la PAC arrosent trop souvent là où c'est déjà mouillé en France. Et que c'est peut-être là, effectivement, qu'il y a lieu de réformer la politique agricole commune. Et donc, du coup, moi, je suis assez à l'aise là-dessus, puisque même si c'est un sujet que je ne pratique pas, sur lequel je ne suis pas experte, nous avons dans notre groupe, et mon groupe au plan français, quelqu'un qui est devenu coordinateur sur la politique agricole. On a aussi, dans d'autres groupes, des gens qui sont de très, très bons connaisseurs et qui partagent ce sentiment qu'il faut effectivement passer à une autre PAC, une PAC plus équitable et plus adapté aux régions qui sont quelquefois des régions en difficulté, aux territoires qui ont vraiment besoin d'être plus aidés et qui fasse en sorte qu'on n'arrose pas nécessairement là où c'est déjà mouillé.
L'Europe doit aussi écouter un autre sujet, notamment dans les Alpes du Sud, c'est le loup. Beaucoup évoquent la sortie de la Convention de Berne, puisqu'on le précise, le loup est une espèce protégée par la Convention de Berne. Ça, c'est un sujet qu'il faut mettre complètement de côté, qui est complètement utopique.
La sortie de la Convention de Berne, vous voulez dire ? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. En revanche, c'est ce que je sais, c'est que la question de la Convention de Berne, du taux de quota de loups, la révision pour faire passer le loup comme espèce strictement protégée à espèce protégée, est un sujet qui est d'actualité. J'en veux pour preuve une question écrite prioritaire qui a été déposée par le collègue dont je vous parlais à l'instant, Éric Andrieux, ainsi que José Bové, c'est une question co-déposée, qui demande plusieurs choses, qui demande effectivement d'abord la révision de la Convention de Berne sur ce sujet, et qui demande la révision de la directive qui date de 92, précisons-le aussi, concernant la conservation des habitats naturels, et qui demande donc ce déclassement du loup de statut d'espèce strictement protégée à protégée. Parce que on comprend bien, je l'ai vu en arrivant ici, on comprend bien qu'il y a des attaques qui sont subies par des éleveurs et des effets économiques qui sont importants pour cette filière qui est en plus dans un territoire un peu fragile. Donc il faut réagir. Il faut évidemment avoir cette idée en tête sur les révisions diverses et variées, puisque je crois en plus que le quota de loups a été atteint alors qu'il était prévu 36 loups pour jusqu'en juin de 2017. Donc on est effectivement dans une situation assez critique sur laquelle il faut à la fois avoir des enjeux de révision des différents textes et puis aussi de continuer d'avoir aussi les questions de prévention en tête. La Commission suit, je crois, avec beaucoup d'attention l'évolution. Il y a un régime dérogatoire sur cette protection stricte qui existe. Et puis, il y a un souhait d'amélioration de la coexistence avec entre les humains et les grands carnivores, avec des fonds qui arrivent, LIFE, et des fonds fédères aussi qui arrivent.
Ce qu'on entend, en tout cas, c'est que l'Europe ne considère pas le loup comme un sujet mineur et mis de côté.
Je pense qu'il ne l'est pas. Et à partir du moment où des gens se mobilisent pour témoigner d'une difficulté qu'ils rencontrent et qu'ils demandent à l'Union européenne d'être plus efficace, évidemment, ces sujets doivent être entendus. Et il n'y a aucun sujet mineur, a priori, pour l'Union européenne.
Dernier sujet, avant de vous quitter, il y a des élections, évidemment, qui vont avoir lieu en France. Comment regarde le Parlement européen ces élections à travers des candidats qui malmènent parfois l'Europe, souhaitent en sortir partiellement ou totalement, et qui remettent aussi partiellement ou totalement la question de l'euro tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on est attentif à tout cela au Parlement européen? Est-ce qu'on est inquiet vis-à-vis des candidats qui pourraient arriver en tête?
On y est, je crois, inquiet, effectivement, et très attentif, dans un contexte, certes, français, que la Commission, que le Parlement et que le Conseil aussi regardent avec attention, et dans un contexte européen où la montée en charge ces dernières années des mouvements populistes, très réactionnaires et quelquefois qui ont un rapport avec l'état de droit extrêmement distant. Je pense au régime de M. Orban en Hongrie ou au régime en Pologne qui ne montre pas un visage très ouvert et très dynamique de l'Union européenne.
Pour être direct, est-ce qu'il y a des candidats qui inquiètent plus l'Europe que d'autres?
Il y a des candidats qui, évidemment, inquiètent plus l'Union européenne que d'autres. C'est une fausse question. Vous savez très bien que Marine Le Pen inquiète beaucoup plus que d'autres, parce qu'elle est dans ce contexte que je décrivais, un contexte de gens qui sont très critiques de l'Union européenne, qui l'utilisent comme un bouc émissaire des politiques qui sont menées, et qui ont finalement qu'une seule envie, c'est de la détruire de l'intérieur, et qui s'appuient sur, par exemple, des votes qui sont intervenus récemment dans les îles au Royaume-Uni. Donc, le Brexit, certains voudraient maintenant en faire un Frexit, bien sûr que cela inquiète, mais il faudra dire un jour les mensonges qui sont développés par ceux qui, au plan européen, comme parlementaires européens, font de l'Europe un bouc émissaire.
Cette idée d'un euro national qui est évoqué par certains, un euro pour la France, un euro pour l'Allemagne, ça c'est quelque chose qui est complètement inenvisageable ?
Sur le papier, tout est envisageable, mais il faudra qu'on m'explique à quoi cela servirait-il. Quand j'entends Marine Le Pen, pour la nommer, puisque c'est d'elle dont nous parlons depuis tout à l'heure, dire à une heure de grande écoute à la télévision française qu'il faut en fait faire un euro français ou une espèce de franc, un nouveau franc, si j'ai bien compris, qui soit à parité avec l'euro, je ne vois. Et qu'elle dit par exemple, par ailleurs, que ça ne changera rien pour les Français et pour la politique économique, on se demande franchement pour qui elle prend les Français, sauf pour des imbéciles.
Merci Sylvie Guillaume d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Parlement européen et du groupe Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. Merci beaucoup.